Bien. On poursuit notre étude sans reproche à son retour. Et dans cette série, une mini-série, le pasteur et son ministère, dans la foi et dans l'amour. Charles Spurgeon a dit un jour, « Une petite foi va emmener votre âme au ciel. » Une grande foi va apporter le ciel dans votre âme. Paul rappelle les deux thèmes qui meublent sa pensée, qui cultivent continuellement sa pensée sur ses enfants. Dans quel état est leur foi? Dans quel état est leur amour? C'est un sujet important. C'est un sujet primordial. La foi est le solide fondement de la vie chrétienne. Nous basons notre vie chrétienne sur la foi. L'amour est le ciment qui fait tenir ensemble tout ce que l'on peut faire, toute notre pratique, tout ce que l'on peut accomplir. Notre vécu chrétien est construite sur le fait que nous croyons. Finalement, nous sommes des croyants. Et une autre bonne nouvelle, les gens de Thessalonique gardent un bon souvenir de Paul. Et je crois réellement que tout est lié dans cela. Le fait de garder un bon souvenir est lié au fait d'être ferme dans la foi et dans l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul est venu enseigner une doctrine tout à fait nouvelle qui a chambardé leurs croyances, qui a chambardé leur manière de penser, qui a viré de bord complètement tout ce qu'ils pensaient. Si vous avez passé par, si vous avez donné votre vie à Christ, à un moment donné dans votre vie, vous avez été chambardé, vous avez été confus, vous avez dit « je ne devrais plus penser cela, je devrais penser autrement. » Et les Thessaloniciens ont vécu la même chose. Un autre exemple, je viens juste de prendre un logement ici à Trois-Rivières. C'est une futilité de prendre un logement. J'ai vendu ma maison, j'ai pris un logement. Mais vous ne pouvez pas savoir le paquet de confusion que ça a apporté. La ville, d'abord, hein? La ville. Je suis pas un friand de la ville, là. Et où sont les choses? Mon épouse a changé de place 12 fois les chaudrons, là. OK? On finit par se placer, ça fait 2 mois. Le changement de situation, le changement de pensée emmène une confusion. Les Thessaloniciens auraient dû vivre cette confusion-là, normalement, et même avoir une certaine réserve sur ceux qui ont apporté cette confusion-là. Mais il n'y en est jamais question dans le texte. C'est tout au contraire. Pourquoi? À cause de leur fermeté dans la foi et dans l'amour. Tout est lié. Ces deux aspects de la vie chrétienne, maintenant, façonnent leur vie, façonnent les actions de leur vie. Mais, ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est la foi? Ça ne fonctionnait pas la semaine passée, Christiane. qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux 11.1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on voit. » J'aimerais ça vous expliquer en long et en large le verset, mais j'aimerais beaucoup mieux vous le démontrer. J'ai 2 $. Je veux te donner 2 $. Tu le veux-tu? Je ne l'ai pas donné à toi.
Ils ne veulent pas.
Ah, je ne sais pas. Est-ce que tu le veux? Voilà. J'y ai donné 2 $. C'est ça, la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque j'ai montré 2 $, elle dit, Il veut le donner. Je crois qu'il veut le donner. J'ai foi qu'il veut le donner. Première partie de la foi. Deuxième partie de la foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est qu'elle s'est élevée malgré toute sa gêne et elle est venue le chercher. Puis ça a été difficile, on l'a tous vu. Mais elle a eu la foi et elle l'a démontré en venant le chercher. Adam, on va avoir plus de foi que toi, là, mais c'est pas bien. Une ferme assurance, je crois. Et la démonstration, c'est que j'agis en fonction de ce que je crois. La foi des Thessaloniciens, comme la nôtre, est un grand cadeau, un énorme cadeau. C'est un don de Dieu. Si un jour j'ai pu mettre ma confiance en Dieu seul, non pas à un homme, mais en Dieu seul, c'est pas parce que ça m'a été poussé dans la gorge puis forcé à... On n'est pas dans le temps de l'Inquisition, parce qu'ils noyaient les gens en disant « crois en Dieu, crois en Dieu ». Ça ne fonctionnait pas. Mais parce que Dieu me l'a présenté et que Dieu me l'a donné. C'est un don. Même certains inconvertis plus allumés comprennent cela. Vous connaissez Alain Martineau, chroniqueur au Journal de Montréal, c'est un journaliste et parfois irrévérencieux. Il a dit un jour, il dit, vous êtes chanceux, vous les chrétiens, de croire. Moi, il dit, je ne peux pas croire. Il admettait, sans même le comprendre, que ça ne lui a pas été donné de croire. Beaucoup d'inconvertis croient en Dieu. Promenez-vous et demandez s'ils croient en Dieu. Oui, oui, je crois en Dieu. Mais nous allons plus loin que croire en Dieu. Nous croyons Dieu. Nous croyons Dieu dans ce qu'il dit. Nous croyons Dieu dans ce qu'il fait. Nous croyons Dieu dans ce qu'il a écrit dans sa parole de Dieu. La foi n'est pas un concept lié seulement au Nouveau Testament. La foi est un principe que Dieu a établi à la création du monde, lorsqu'il a mis Adam et Ève sur la terre. Ève a manqué de foi envers Dieu. Ève, elle n'a pas cru Dieu. Elle a préféré croire le serpent. Hébreux 11:6, donc d'ailleurs une bonne partie du message va être basée sur Hébreux 11. Dans la version français courant, or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Personne, de Adam jusqu'au dernier homme. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Et ce verset-là est mentionné à travers des personnages comme Abel, Enoch, Noé. Donc, c'est un principe qui existe de tout temps. La foi n'est pas un bibelot non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on étale en disant « voici, regardez ma foi ». C'est une chose qui est invisible. C'est une chose qui vient du cœur. C'est une chose qui est dans le cœur. C'est quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous. Et qui nous pousse à faire des choses différemment du monde. À prendre des décisions dont certaines ne font aucun sens selon le monde. Mais qui prend tout son sens sous le rapport de la foi. Ça vous est arrivé certainement de prendre des décisions contestées, contestables vis-à-vis du monde. Ça m'est arrivé. À cause d'une décision majeure que j'ai prise dans ma vie, je me suis fait traiter de fou. Par bien du monde. Ma mère, mes compagnons de travail, beaucoup de monde. Mais non, t'es malade. Mais c'est la décision que je dois prendre. Et je l'ai fait par la foi. Hébreux 11. Hébreux 11 nous dresse un tableau des actions qui ont été accomplies par la foi. Et c'est majeur. Et cette partie du chapitre 11 de Hébreux, je l'ai tirée du commentaire de M. MacArthur. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue quand tu trouves quelque chose de bon. Première des choses, au verset 4. Et remarquez qu'une chose, à chaque geste de foi, l'auteur signale une bénédiction, signale quelque chose qui est arrivé à cet homme qui a fait en sorte que la foi a été bénie. Abel a adoré par la foi. Abel a cru que son sacrifice était plus excellent que celui de Caïn. Parfois, lorsque nous faisons un sacrifice, lorsque nous adorons le Seigneur, nous le faisons avec foi. Et le Seigneur aime ce que l'on dit, mais il aime surtout comment on le dit. Je crois ce que je dis. Je crois que j'adore Dieu lorsque je fais ça. Et il a offert un sacrifice plus excellent. Enoch a marché par la foi. Il n'a pas vu la mort. Il a été plus loin qu'Abel. Toute sa marche sur la terre a été une marche de foi. Enoch croyait en l'existence d'un Dieu miséricordieux, indulgent, bienveillant et personnel. Il recherchait la rémunération de Dieu. Il recherchait sa récompense. Est-ce que nous croyons aux récompenses de Dieu données par la foi? Par la foi, nous avons obéi, obéir par la foi. Et Noé, il y avait une ferme assurance de ce que Dieu lui disait. Lorsque Dieu lui disait qu'il allait pleuvoir, il dit, construis un bateau, construis une arche, parce qu'il va pleuvoir. Noé a dû lui dire, pleuvoir, c'est quoi ça? Avant le déluge, certains commentaires disent qu'il n'avait pas plu, il n'a pas plu avant le déluge. Imaginez, ah, un nouveau mot, la pluie, un bateau, un arche, c'est quoi ça? Puis comment est-ce qu'on construit ça? Voyez-vous les interrogations, voyez-vous les choses qui devaient circuler dans sa tête? Mais qu'est-ce que Noé a décidé de faire? Il a obéi. Dieu lui a dit de faire cela, il dit, si Dieu l'a dit, peu importe les obstacles, peu importe ce qui va arriver, je vais tout simplement obéir. Et il l'a construit. Et il est devenu héritier de la justice. C'est-à-dire, tous les injustes ont été détruits. Il ne restait que Noé, ses enfants et sa famille, 8 personnes, qui sont devenus les héritiers de la justice. Je n'haïrais pas ça de faire appeler héritier de la justice. Mais j'en suis un. Vécu par la foi. Abraham a décidé d'obéir à Dieu et de partir sans savoir où il allait. Il a décidé de vivre non par la vue, mais il a décidé d'y aller sans voir réellement. Va, quitte ton pays. Oui, mais j'aimerais savoir une carte, un GPS, quelque chose. Non, 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 quitte ton pays. Tu ne sais pas où tu vas aller, mais tu vas être avec moi. Et je vais être avec toi. Et à plusieurs reprises, Abraham a été éprouvé dans sa foi. Et il a toujours gardé cette croyance. Il a toujours cru Dieu dans ce qu'il disait. Abraham, homme de foi, béni de Dieu dans sa progéniture, il a reçu une postérité appelée de son nom, de sa manière de vivre. Sommes-nous prêts à obéir? Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance? Certains, par la foi, ont triomphé de la mort. Ils ont triomphé de la mort car ils ont vu le futur. Ils ont vu ce qui était pour se produire dans le futur. Et Dieu leur a donné une vision du futur. Comme il nous a donné à nous par la foi, nous savons où ce que nous allons. Nous savons pour l'éternité que nous serons avec lui. Et lorsque je pense à ça, ça me déroute. Comment se fait-il qu'il s'attache à une personne aussi médiocre que moi? Comment se fait-il qu'il veut passer l'éternité avec moi? Heureusement, il y a la solution, je vais être transformé. Il y a des décisions qui ont été prises par la foi. Le parcours de Moïse n'a pas été un hasard. Les parents de Moïse n'ont pas tiré au dé, à savoir, on le garde-tu, on le met-tu dans un panier, on le tue-tu. Non. Par la foi. Ils ont été dirigés de Dieu de faire les choses qu'ils devaient faire par la foi. Moïse lui-même a pris des décisions. Il a jugé que les trésors de l'Égypte ne valaient rien à côté de ce qui l'attendait avec son peuple. Puis pourtant, Moïse a souffert. Moïse a tenu sur ses épaules des millions de personnes. Moïse a traversé le désert. Moïse a été, de toutes les manières, tiraillé par son travail. Mais il jugeait encore que ça valait plus cher que tous les trésors d'Égypte. Les décisions qu'ils ont été prises ont été prises de la bonne manière. Ça a été de bonnes décisions. Est-ce que nos décisions nous font avancer ou nous font reculer? C'est important, les décisions qu'on prend. On prend combien de décisions par jour? Est-ce qu'on est capable de calculer ça? On prend des milliers de décisions par jour. Il y en a plus ou moins importantes, il y en a d'autres qui sont plus importantes. Nos décisions, nos bonnes décisions prouvent notre maturité. Et non seulement il éprouve, mais il nous fait avancer en maturité. Oui, il ne devrait pas mettre un couvert, c'est... Nos bonnes décisions prouvent notre maturité et nous fait avancer en maturité. Car une bonne décision arrive à un bon résultat. Et à quelque part, c'est une roue qui tourne. Mais nos mauvaises décisions démontrent notre manque de maturité. Nous prenons des décisions impulsives. Nous prenons des décisions qui ne sont pas selon ce que Dieu demande. Nous prenons de mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions-là, en plus de démontrer notre manque de maturité, ils ralentissent notre croissance, ils nous retardent. Nous savons que le temps est court. C'est le temps de baser nos décisions sur la foi. C'est le temps aujourd'hui de prendre nos décisions selon la volonté de Dieu. Et les meilleures décisions viennent de ce qui ressort de la parole de Dieu, qui sont pour la gloire de Dieu, comme notre sœur a dit tout à l'heure. Tout pour la gloire de Dieu. À un moment donné, je disais à certaines personnes, « Pourquoi vous lassez, vous suyez le matin? » Elle dit, « Pour qu'il soit bien lassé. » Non, pour la gloire de Dieu. Tout va te suivre. Certains ont pris courage par la foi. Ils ont vécu une grande délivrance. Et d'autres sont sortis de la médiocrité. Les murs de Jéricho. Lorsque le peuple d'Israël est venu devant Jéricho, qui semblait imprenable. Dans ce temps-là, les murailles de villes étaient des forteresses quasi imprenables. L'épaisseur des murs de murailles pouvait loger deux chariots de large. Il y a des armées qui pouvaient rentrer sur ces murailles-là pour attaquer. C'était quasi imprenable. Et le seul peuple, Israël, qui arrive, qui dit, il faut abattre ça, ces affaires-là. Il faut passer par-dessus. Comment est-ce qu'on va faire? Ça devient imprenable. Ils ont pris courage. Ils ont suivi le Seigneur. Par la foi, les murs ont tombé. Par la foi, Rahab est sortie de la prostitution. J'imagine que aujourd'hui, comme dans ce temps-là, la prostitution ne devait pas être le plus beau métier du monde. Ça devait être difficile. Mais Dieu l'a sortie de là. Comment? Par la foi. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a cru ses serviteurs. Elle a cru les soldats qu'elle a cachés. Elle dit, et Dieu l'a sortie. Par la foi, il y en a qui ont cru au miracle. Daniel est rentré dans la fosse au lion en disant, « Je ne me ferai pas dévorer. Dieu est avec moi. » Puis si Dieu permet que les lions se nourrissent, ils vont me recréer ailleurs. De toute manière, ma confiance est en Dieu. Ils ont vécu toutes sortes de bénédictions. Ils ont accompli des choses qui sont incroyables. Que les personnes qui ne croient pas à la Bible vont dire, voyons, c'est impossible, ça ne se peut pas, nous pouvons croire. Il y avait une histoire, le père de Denis Legendre, qui était dans un cours, puis il disait, il parlait de Jonas, puis cet homme-là avait une grande foi. Il disait, le professeur, il dit, croyez-vous ça que Dieu a fait vivre Jonas dans 3 jours dans le ventre d'un poisson. Monsieur Legendre se lève, il dit, je le croirais même s'il dirait que le poisson a passé 3 jours dans le ventre de Jonas. Cette dernière section d'Hébreux 11, du verset 35 jusqu'à la fin, c'est complètement une autre manière de voir. C'est complètement autre chose. Des gens qui ont souffert, des gens qui ont supporté des choses ignobles, des gens qui ont vécu beaucoup de misère, beaucoup de problèmes, beaucoup de fardeaux, et qui n'ont jamais quitté leur foi, qu'ils ont gardé leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient quelque chose de meilleur. Ils voyaient quelque chose d'autre. Ils voyaient, ils pouvaient atteindre la perfection et avec ils pouvaient avoir cette perfection-là. Ça ne peut pas comprendre. Comment ça se fait que des personnes peuvent vivre ça et garder la foi? C'est seulement que par la puissance de Dieu. J'aime cette puissance. J'aime voir des gens qui ont souffert ça. Ça me dit à quelque part que moi aussi, je suis capable d'en supporter. Si eux l'ont supporté, je suis capable moi aussi d'en supporter. Je suis capable aussi d'aller plus loin. Je suis capable de croire Dieu quand c'est incroyable, quand ce n'est pas possible. Toutes des hommes et des femmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais on a aussi des héros modernes dans notre temps qui sont des hommes de foi. J'en ai connu. J'en ai vu personnellement. Et ça m'a toujours épaté. Mais un qui m'a épaté, j'ai lu 3 ou 4 versions de sa biographie, c'est George Mueller, qui était un homme de foi. Il a vécu 93 ans, de 1805 à 1898, et il a mis sur pied des orphelinats. Des orphelinats qui ont nourri 20 000 enfants. Par le seul principe de la foi et de la prière. Il n'a jamais demandé, lorsqu'il a décidé de renoncer à son salaire, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'argent ou quelque chose. Jamais. Il a dit à une femme un jour, J'ai dit à mes frères, lorsque j'ai renoncé à mon salaire, que je ne parlerai qu'à Dieu, seul, de mes besoins. Et il a tenu cet engagement jusqu'à sa mort. Et à la fin, après sa mort, ses orphelinats ont continué, ils l'ont suivi. Et ces orphelinats valaient 20 millions de dollars et ils ont nourri 20 000 enfants. Et un jour, Miller, vers la fin de sa vie, il disait qu'il avait nourri 2 000 orphelins par la foi, par le seul principe de la foi, sans jamais rien demander. 2 000 orphelins et aucun repas n'a été servi avec plus de 30 minutes de retard. Par le seul principe de la foi. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il obtenait, il l'obtenait par le demandant à Dieu, tout simplement. Comment cet homme a vécu cela? Tout simplement en mettant sa confiance totale en Dieu. Et Dieu a répondu, Dieu a béni. Dieu bénit la foi. Un jour, George Mueller s'est assis à la table avec une trentaine d'enfants. Puis, il dit, bon, on va prier pour le repas. Et les 30 enfants l'ont regardé, ils ont dit, il n'y a absolument rien sur la table. Il dit, on va prier pour leur pas pareil. Fait qu'ils se sont mis à prier et dans le milieu de la prière, ça frappait à la porte. Puis c'était un laitier qui livrait dans ce temps-là avec une charrette. Puis il dit, je viens de casser une roue en avant, puis là, je vais tout perdre mon lait. Est-ce que vous le voulez? Il dit, oui. Et plus tard, un boulanger qui a passé, il dit, bon, ben j'ai trop de pain, je peux vous le donner? Et la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a prié et il a demandé à Dieu. George Mueller, un homme de foi. Et si vous mettez la main sur une de ses biographies, lisez-les, c'est très édifiant. Ça nous renforcit de voir que des hommes existent encore comme ça et qu'on pourrait être un de ces hommes-là. Homme dans le sens général, homme ou femme. Le but de l'exercice, et de montrer la valeur de la foi. Qu'est-ce qu'elle est pour nous, cette foi-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, concrètement? On a la foi, mais aujourd'hui, là, toutes les personnes mentionnées précédemment, absolument toutes les personnes, sont des gens comme vous et moi, ni plus, ni pire, ni moins pire, ni mieux, ni pire, excusez. Le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'ils ont cru toute leur vie ou qu'ils ont cru à une situation particulière et le résultat a été des bénédictions. Personne dans ces hommes-là n'a été parfait. Ils ont tous été pécheurs. Enoch aussi. Le désir de Dieu, c'est que nous mettions notre confiance en lui. Parfois, c'est facile de mettre notre confiance en Dieu dans les grandes choses. Seigneur, permet que j'aie un travail. Seigneur, permet que je trouve l'argent nécessaire. Seigneur, permet que. Mais c'est aussi, Seigneur, permet que je puisse trouver la paix dans ce que je vis. Ou, Seigneur, permet que j'aie une paix dans mon âme. Et de croire ce que l'on dit. Je dois me lever ici contre une petite phrase qui m'est déjà été dite, qui peut-être vous a été dite aussi. Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Ça, c'est une phrase qui choque mes oreilles. Oh, j'ai de la misère à me tenir, pas sauter dans ce temps-là. Ce n'est pas vrai. Ou c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas à moi de juger. La foi, ce n'est pas un bibelot que l'on met sur une table, c'est quelque chose d'invisible dans le cœur. Personne ne sait combien de foi j'ai, quelle foi j'ai envers mon Dieu. C'est important de comprendre que toute la foi du monde n'ira jamais contre la volonté arrêtée de Dieu. Ce n'est pas parce que Petra et sa famille ont manqué de foi qu'elle a été décédée aussi jeune. Ce n'est pas parce que je manque de foi que je n'obtiens pas toujours ce que je demande. Dieu a une raison pourquoi il agit de cette manière. Et il n'est pas obligé de m'en faire part. Il n'est pas obligé de me le dire. Lorsque Dieu est apparu à Job par après, est-ce qu'il a commencé à expliquer, mais comprends Job, que j'ai laissé Satan? Non, non, non. Quand Dieu s'est présenté à Job, il s'est présenté lui-même. Voici le Dieu qui est devant toi. Et Job a compris. C'est la même chose. Ce que la seule chose que Dieu me demande, c'est que je garde confiance que tout ce qui arrive, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Verset très connu, très haï aussi quand ça va mal, mais très connu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout ce qui m'arrive, les bonnes choses, les mauvaises choses, sont pour la gloire de Dieu. Ma foi n'est pas dans les circonstances. Ma foi est dans un Dieu qui est maître des circonstances. Peu importe ce qui va arriver, je vais lui faire confiance. Oui, on peut être, ah, j'ai encore ça comme bad luck, puis ça n'a pas de bon sens. Mais Dieu est encore maître des circonstances. Et on doit être conscient de cela, constamment, constamment. Et c'est ce qui développe votre maturité. Mais il peut arriver parfois qu'on manque de bénédiction par manque de foi. C'est possible. C'est très possible. Ce n'est pas à moi à juger, c'est à vous, chacun de vous. Dans Marc 9, 21-24, Jésus demanda au Père, lorsqu'il est descendu de la montagne, le Père voulait aller voir Jésus pour guérir son enfant qui était pris d'un esprit démoniaque. Et Jésus lui demande, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Le Seigneur lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et le Père répond, aussitôt le Père s'écria, je vois, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Permets à quelque part, développe en moi cette croix-là, cette foi-là. Donne-moi ce don que j'ai besoin d'avoir. Et Jésus a guéri beaucoup de personnes qui n'avaient pas nécessairement la foi. Mais il s'est arrêté sur cet homme pour démontrer à quelque part que la foi avait une grande utilité dans nos vies. Jésus voulait démontrer exactement là la puissance de la foi dans nos vies. Comme il a démontré à travers Joyce Meyer, la puissance de la foi, qu'est-ce qu'il pouvait accomplir. Et il peut accomplir de grandes choses dans nos vies aussi, si nous croyons. Mais faire grandir sa foi, la faire prospérer sa foi, demande à quelque part que nous nous soumettions à Dieu, que nous lui fassions confiance, peu importe ce qui va arriver. Ça ne nous enlève pas notre responsabilité de faire ce qu'on a à faire. Mais ça laisse une grande part, quelque part, dire, je vais mettre ma confiance, je vais faire ce qu'il faut faire. Mais je vais aussi mettre ma confiance en Dieu en disant que Dieu va m'éclairer dans mes décisions, Dieu va m'éclairer dans mon vécu, Dieu va m'éclairer dans ma marche. Et c'est Dieu, et je vais fonctionner conjointement avec Dieu. J'ai eu beaucoup de misère à trouver une conclusion. Et je l'ai trouvé ce matin. J'ai trouvé ce matin lorsque je relisais mes textes, lorsque je relisais ma prédication ce matin, et j'ai trouvé la conclusion. Et il n'y a pas meilleure conclusion que celle de la Bible. Donc, Hébreux 12, 1 est la conclusion de tous ces témoignages que l'on a entendus ce matin. Et la conclusion, et on regarde encore Français Courant parce que c'est très parlant. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, et c'est les témoins que nous avons vus. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Cessons de alourdir notre service. Voyageons léger. Voyageons par la foi. Maintenant, avez-vous déjà réfléchi sur votre foi? Avez-vous déjà demandé à Dieu de venir vous secourir dans votre foi? Et quelle valeur donnez-vous à votre foi? Quelle importance que c'est pour vous de croire Dieu dans les petites, dans les grandes choses? Après la prédication, après lorsque tout sera terminé, je vais rester un peu à l'avant. Si toutefois vous voulez prier avec moi pour une chose qui vous tient à cœur, pour un problème que vous avez, je suis disponible. Je suis prêt à vous écouter. On est prêt à prier ensemble. Merci Seigneur pour ce cadeau immense, cette foi qui fait de nous des êtres nouveaux, des êtres qui ne fonctionnent plus de la même manière, mais qui fonctionnent, Seigneur, pour ta gloire et pour ton nom. Et la seule manière, et tu nous le dis, la seule manière que nous pouvons marcher et fonctionner avec toi, c'est par la foi. Permets que cette foi puisse se développer. Permets que l'on soit ferme et fort dans notre foi. Permets que le monde ne dérange plus ce que nous sommes et qu'il puisse, Seigneur, se tenir à l'écart. Permets que Satan puisse s'éloigner lorsqu'il voit notre foi. Nous te demandons cela, Seigneur, pour que tu sois glorifié et honoré à travers nos corps, à travers nos cœurs, à travers nos vies, que nos témoignages aient de l'impact, que toute notre vie ressemble à celle que tu désires qu'elle soit. Je te remercie de m'avoir conduit à dire ces choses et à comprendre ces choses dans ma vie et qu'elles puissent avoir de l'impact dans ma vie dans les jours qui vont suivre, toujours pour ton nom et pour ta gloire, Seigneur.